Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le documentaire de La Fabrique de l'Histoire en réécoute ce samedi matin nous emmène chez les amateurs de ce qui n'était pas encore un art, la bande dessinée. Les historiens et les sociologues de la culture ont depuis longtemps tenté de comprendre comment une pratique culturelle ou technique décriée a pu un jour devenir un art. Ce fut le cas au XXe siècle de la photographie, mais aussi dans une période plus proche de nous de la bande dessinée. C'est l'histoire que raconte ce matin le documentaire d'Anaïs Quien et Charlotte Roux, où comment la pratique de la bande dessinée, décriée au moins depuis la loi de 1949 en tant que lecture corruptrice pour la jeunesse, a pu se légitimer jusqu'à devenir un art, le 9e art. Il a fallu pour cela des pionniers et des pionnières qui ont affronté les colibés des défenseurs d'une culture cultivée afin d'expliquer que Tarzan, Tintin, Mandrake ou Barbarella méritaient d'entrer dans le panthéon des personnages de fiction au même titre que le capitaine Nemo ou le général Dourakine. Mais qui dit légitimation dit onction d'un grand lieu culturel, ce sera en 1967 le musée des arts décoratifs à Paris et Tarzan entra au musée, un documentaire d'Anaïs Quien et Charlotte Roux avec les témoignages de Claude Moliterni, Evelyne Sulreau, Michel Denis, Jean-Claude Romer, Bernard Rancillac et en archive Alain René, Jean-Claude Forest et Pierre Coupry.
Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
An obscure body in the SK system, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
Alors voilà le premier numéro de Robinson qui est paru en avril 36, donc j'avais 11 ou 12 ans. Je suis tombé sur Guy Leclerc et sur les bandes de science-fiction. En 36, il y avait des fusées qui allaient dans l'espace, qui tombaient sur des planètes étrangères. Ça m'avait fasciné.
Ça m'amusait de voir donc que ce mépris très cultivé du début des années 60 ne pouvait rien contre l'ardeur de ces quelques messieurs à essayer de retrouver leurs émotions d'enfants, de petits garçons là.
Prepare her for our pleasure.
Guy Leclerc, d'abord, il s'appelait Flash Gordon en anglais, hein, on l'avait traduit Guy Leclerc. Et c'est un jeune sportif qui voyage en avion avec une jolie dame qu'il ne connaît pas. L'avion tombe sur le laboratoire d'un savant fou qui vient d'inventer une fusée et qui la lance dans l'espace à la rencontre d'un énorme aérolithe. Il s'écrase sur la planète. Mais d'ailleurs, ça n'est qu'un prétexte parce qu'une fois qu'ils sont sur la planète, qu'ils ont survécu, que Guy Leclerc et la jolie dame se retrouvent ensemble au musée d'aventures fantastiques, ça va durer 3-4 ans, et on ne parlera plus jamais du danger de s'écraser sur Terre avec le satellite. On n'en parle plus du tout. Mais on s'en fichait pas mal, parce que ce qui leur arrivait était bien assez beau. Alors, de temps en temps, ça passait en noir et blanc, c'était bien triste. Alors je l'ai colorié, oui, tiens, voilà.
Au départ, c'est quand même des collectionneurs à la recherche de leur enfance. Hein, parce que, en fait, la bande dessinée, pendant très longtemps, ayant été traquée dans les cours de récréation, dans les écoles, par les instituteurs, après par les parents, qui, dès que les enfants avaient 14-15 ans, disaient « tu ne vas pas garder ça quand tu seras adulte », on lui jetait à la poubelle leur bande dessinée. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle la Madeleine de Proust.
C'était pour les gosses ou pour les gens un peu dérangés, enfin...
L'as-tu trouvé?
Non, ils ont fermé le corridor.
Oh, c'est sur l'ordre de prêt.
Regarde, je le lisais, comment vous dire, sans y adhérer, comme quelque chose qui m'est toujours apparu, comme émanant de ce monde mystérieux que sont les hommes.
Parce qu'elle est la fiancée de l'espace. J'espère qu'on ne l'a pas piqué. Pendant la guerre de 40, c'était interdit. Enfin, les trucs américains étaient interdits, évidemment. Mais il devait rester dans la maison quelques Mickey. Enfin, je connaissais ce monsieur, quoi. Petit Mickey, puis...
La
fiancée de l'espace. Où est-ce qu'elle est ? Il doit être dans l'atelier à côté. Bon, attendez, je vais le chercher.
Au début des années 60, l'aventure est un genre méprisé. Mais certains n'ont pas oublié les illustrés d'avant-guerre qui les ont nourris d'images et de récits trépidants. Au lendemain de la guerre, les mesures politiques vouées à endiguer l'influence américaine en France et plus généralement en Europe interdisent la reprise de l'importation des bandes dessinées américaines. Nostalgiques de cet âge d'or dessiné qui a marqué leur enfance, certains décident d'unir leurs forces afin de rassembler les collections éparpillées. Dans un contexte culturel où le récit est méprisé, il faut aller plus loin. Parmi les plus exaltés, Francis Lacassin, Claude Moliterni et Jean-Claude Romer vont unir leurs forces pour donner à la bande dessinée ses lettres de noblesse. Ils sont soutenus dans cette tâche par de grands noms de la culture légitime, comme Alain Resnais, Federico Fellini ou Raymond Queneau. Un discours savant se développe dans les revues Gif, Wif et Phoenix. On parle désormais de littérature graphique, de 9e art. Flash Gordon, Tarzan et Mandrake se hissent progressivement au rang d'objets culturels. Mais l'apothéose de cette nouvelle légitimité a lieu en 1967, lors d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs. Le jour où Tarzan entra au musée, ou comment la bande dessinée devint un art.
Figuration narrative et bande dessinée, enfin, ça avait un programme qui avait l'air presque scientifique. Enfin, je sais pas si ça l'est, mais enfin, ça fait sérieux.
Puis là, nous avons eu quand même un coup dur terrible.
Francis Lacassin, 1994.
C'est que l'invasion des Américains à l'Afrique du Sud fait que toutes les bandes dessinées américaines ont été interdites. Que du jour au lendemain, nos journaux ont soit disparu, soit publié des bandes dessinées complètement insipides. Et que nous avons laissé nos héros préférés au milieu d'un grand péril et nous ne savions pas comment ils s'en sortiraient. Bon, on l'a su après. Après la guerre, nous avons cherché. Le début du club dessiné, ça a été de trouver la suite des bandes que nous n'avions pas pu lire à cause de l'invasion américaine.
On ne savait pas ce qui était arrivé à Guy Leclerc et aux autres héros qu'on aimait.
Claude Veillot.
Si bien que dans les années 60, on s'est retrouvé à plusieurs, dont Francis Lacassin, Alain Resnais, quelques autres comme ça. On a constaté cette nostalgie, cette frustration qu'on avait. Et c'est à cette époque qu'a été fondé le club des bandes dessinées, où on a pu enfin, devenu adulte, connaître la fin des aventures de Guy Leclerc et des autres.
Ensuite, il y a eu des problèmes politiques. C'est ainsi qu'en 1949,
Francis Lacassin.
Il y a une loi qui a été votée par la majorité politique de l'époque, qui était composée de socialistes, de MRP et de communistes. Ces trois mouvements, MRP c'était un peu l'ancêtre de la droite actuelle qui s'est scindé en divers mouvements. Et ces trois familles de pensée se sont mis d'accord pour voter une loi qui allait censurer la bande dessinée. C'est la fameuse loi de 1949 qui met la jeunesse sous le régime de l'éducation surveillée. C'est-à-dire les publications pour la jeunesse sont contrôlées par la direction de l'éducation surveillée du ministère de la Justice. Vous vous rendez compte, hein ? Et donc, cette commission qui s'est mise à siéger, qui était composée d'anciens magistrats retraités à qui il fallait donner une raison de vivre, des vieilles demoiselles qui n'avaient pas eu d'enfants, mais qui se souciaient de l'avenir des enfants des autres, sont mis à éplucher toutes ces bandes dessinées. On trouvait ça dégoûtant, immoral, l'humour loufoque. Je me rappelle, l'humour était loufoque. Et ils ont purement et simplement interdit à l'affichage, suppression de l'inscription à la commission paritaire des papiers de presse, c'est-à-dire de la subvention sur le papier, donc à mort. À mort, tout un tas de publications si elle continue à publier des bandes interdites par la commission. Et c'est ainsi que Tarzan, c'était le symbole du personnage à abattre.
Qu'est-ce que c'est ?
Je n'en sais rien. Qu'en penses-tu, Ariano ?
C'est peut-être une hyène, Buona.
Peut-être bien. On s'en va.
C'est un cri humain, on dirait.
Humain.
D'où le fait de la naissance des bandes belges, franco-belges.
Michel Denis.
Parce que le marché français, dès le Ducat et Vinclair, ça a été terrible pour eux, parce que du jour au lendemain, ils ont été obligés de saboter Donald, de saboter Tarzan, le journal Tarzan, etc. Chez les communistes, ils avaient un journal qui s'appelait Vaillant, qui était superbe d'ailleurs. Donc en France, ils n'ont jamais été anti-bande dessinée. Hein. Mais là, ils l'étaient, quand c'était l'époque de la guerre froide pour arrêter les Américains.
Ça, je dois dire que mes parents n'étaient pas tellement fiers. Ils se disaient, pourvu qu'ils se portent bien mentalement, c'était vraiment très anormal.
Francis Lacassin.
C'était non pas un refuge, c'était une évasion. Une évasion, non. Refuge, il y a une connotation défensive. Là, c'était plutôt au contraire là, les portes d'entrée de notre monde, les portes d'entrée de l'Empire caché.
Je voudrais vous citer cet adage qui est très important, c'est « la frustration suscite le désir ».
Jean-Claude Romer.
Et c'est dans cette idée de satisfaire notre frustration que tous les frustrés de la bande dessinée ont essayé par tous les moyens de les retrouver. Mais c'était des efforts indépendants. Il n'y avait pas vraiment une association, il n'y avait rien. Alors moi, par exemple, j'avais eu l'idée de faire passer une petite annonce dans une revue. La revue s'appelait Fiction. C'était un mensuel qui publiait des récits fantastiques, science-fiction, etc. pour demander si des gens avaient conserver des collections des illustrés d'avant-guerre. Et ma petite annonce était tombée sous les yeux d'un certain Francis Lacassin, qui était particulièrement intéressé lui également par les illustrés d'avant-guerre, Tarzan, Superman et autres, toutes ces bandes dessinées qui n'étaient pas encore reprises en France à l'époque. Et avec un petit groupe d'amateurs, on s'est retrouvés réunis, où ça, à une fameuse librairie qui est la librairie du Minotaure. Et c'est là où on a décidé d'avoir une action commune.
Et le club des bandes dessinées naquit en 1962.
Moi, Maz Magnan, fils d'Aguar de Scandie, fais vœu solennel sur l'épée de mon père, dont je tiens devant moi le symbole, de me rendre à Kamaalo pour m'efforcer avec honneur et diligence de devenir chevalier du roi Arthur, fils d'Uther Pendragon et roi très chrétien de Grande-Bretagne.
Il y avait une génération qui arrivait à maturité pour faire quelque chose. Ça a été une explosion, quoi. Ça a été une explosion culturelle.
Et de l'aider à reconquérir notre bon droit et de ramener la croix du Christ à tous nos vikings.
Bon, donc, quand s'est fait le club des bandes dessinées, qui était une affaire assez snob, je dois dire. Par snob, je veux dire, on est un petit groupe de gens.
Evelyne Sulreau.
Qui se moquent un petit peu du mépris dont ils sont entourés. C'est ça aussi qui m'intéressait. C'était que les bandes dessinées à l'époque, c'était un petit peu comme ce que Sartre raconte à propos du cinéma quand il était lui-même enfant, hein. Aller au cinéma, c'était un médium, comme on dit maintenant de façon savante, tout à fait méprisé, populaire, etc., où il n'y avait que des histoires où il se passait des choses extravagantes. Et donc, les gens cultivés n'allaient pas au cinéma. Et de même, les gens cultivés ne lisaient pas de bande dessinée, ou bien ils les lisaient quand ils étaient enfants. Et là, alors, selon que vous étiez catholique ou pas, vous lisiez Tintin ou Spirou.
Moi, je ne porte pas le polyester. Moi, je ne lis pas les bandes dessinées. Je refuse, comme dirait Flaubert, le petit nage.
Jean-Claude Romer.
Chacun avait son héros préféré. Il y avait tantôt, pour certains, c'était Mandrake, d'autres, c'était le fantôme, d'autres, c'était même Bécassine, pourquoi pas. Ou...
Et vous, c'était lequel?
Moi, c'était Superman. Moi.
Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman.
Et Superman et Mandrake. Moi, j'étais polyvalent.
C'était extraordinaire parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Il y avait une volonté esthétique. Ce n'était pas simplement les aventures de Tarzan.
Francis Lacassin. 1994.
Mais quand j'ai rencontré Hogarth des années après, il m'a expliqué son système. Il avait vu créer ce qu'il appelait l'anatomie dynamique. C'est-à-dire que d'après lui, le corps humain est le centre de tout, même de la psychologie, de la psychanalyse, de l'esthétique. Et que donc quand on le dessine, il faut tout ordonner à partir du corps humain. Voilà, et du corps du héros quand c'est il y a un héros. Et donc je sentais que c'était une bande dessinée d'une qualité bien supérieure aux autres.
Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais toute petite, mes frères lisaient Bico.
Evelyne Sulreau.
Et moi, je regardais uniquement les robes de la sœur, comment elle s'appelait, je ne sais plus. Mais la sœur aînée de Bico avait des robes extraordinaires. Et donc, je regardais uniquement ça.
Jean-Claude Romère, finalement, c'était un club de collectionneurs plus qu'autre chose au départ, le club des bandes dessinées.
Bien sûr, mais peu à peu, ça s'est étoffé avec des gens qui ont essayé d'expliquer pourquoi on s'y intéressait, pourquoi il fallait s'y intéresser. Donc, ça s'est greffé au fur et à mesure. Au départ, c'était rassembler des collectionneurs autour d'une idée, retrouver des illustrés de notre jeunesse.
Quand j'ai fait connaissance avec Offenstadt et donc la Cassin, à ce moment-là, il y avait le club de la bande dessinée. Alors bon, j'étais à peu près...
Alphonse Boudard, 1994.
J'étais du club de la bande dessinée. Puis alors après, ça s'est appelé le club des expressions de littérature. Oui, c'est ça. Alors à partir de ce moment-là, ça devient un peu plus rasoir et j'ai pas suivi. Et j'ai trouvé que ça prenait une petite allure un peu trop universitaire. Alors j'aimais bien simplement la bonne franquette, quoi. On est du club de la bande dessinée, comme on est d'un club de pêche ou je ne sais quoi. S'il faut que ce soit pris comme ça, il faut que ça reste, à mon avis, dans la bonne humeur et puis simplement la nostalgie. Bon, on est content de parler de ce qu'on a aimé, et puis voilà.
Le titre de ma relation est le thème de la grotte dans les bandes dessinées. Les grottes naturelles, de même que toutes les cavités artificielles, caves, tunnels, mines, passages souterrains, ont toujours exercé une étrange fascination sur l'esprit de l'homme.
Pierre Strinati.
Dans la littérature d'aventure, les grottes et les cavités artificielles...
En 1964, le club des bandes dessinées devient le CELEG, Centre d'études des littératures graphiques. La première revue entièrement consacrée à l'analyse de la bande dessinée voit également le jour. Elle s'intitule Gifouif, du nom d'une petite créature fantastique tirée de la bande dessinée Pim Pam Poum.
À l'époque, il fallait quand même déjà réhabiliter les grands classiques. Les mandrakes, les fantômes, des choses comme ça. Tirer les pirates, des choses comme ça. Donc... la critique négative, ou dire. Puis en plus, on est tous revenus là-dessus, parce qu'on s'est aperçu même dans les petits formats, il y a quand même des choses très intéressantes.
Michel Denis.
Donc, non, c'était quand même un truc promotionnel, grosso modo, pour dire aux gens, mais voyez, c'est un art à part entière. Alors, Lacassin, à ce moment-là, a écrit aussi un livre qui s'appelle Pour un 9e art, 2 points, la bande dessinée, où il essaie d'expliquer que c'est un 9e art après, disons, le cinéma 7e art, la photographie 6e art, le 8e art, en principe, était réservé à la télévision. Et donc, en fait, 9e art, la bande dessinée.
La bande dessinée, nous l'avons vu dans l'émission précédente, devient un art quand elle suscite le rêve, l'imagination, lorsqu'elle fait appel à l'imaginaire. Telle, par exemple, la bande Little Nemo, dont Jean-Claude Forest nous définit la qualité exacte.
Il y a une bande dessinée totalement inconnue en France, n'a jamais été traduite, s'appelle Little Nemo, qui présente d'ailleurs des situations tout à fait surréalistes, une suite de rêves, et c'est en une planche, il doit y avoir une 8 ou 10 images, et l'image crée absolument le climat du rêve, et les dialogues apportent un décalage supplémentaire, ça conserve à l'image toute son ambiguïté. Ça apporte une information, mais qui, par son décalage, ne détruit pas tout le choc apporté par l'image au départ.
Right on time for your schooling, Nemo.
Schooling? But I hate school.
Ah, to be a prince, you must be taught to behave like one. Come along.
Who are all these people?
Why, they're your teachers, my boy. Now, let the lessons begin.
Ben, on trouvait surtout des articles critiques sur des bandes qu'on cherchait à réhabiliter.
Michel Denis.
Des bibliothèques. Pas tellement pris sur l'actualité, parce que l'actualité, elle n'existait quasiment pas, quoi. Et c'était des albums, en fait, de format italienne, assez, j'en ai dans le magasin, là, assez costaud, d'ailleurs, pour l'époque, assez luxueux, quoi. Donc, évidemment, ça s'adressait qu'aux intellectuels, globalement. C'était pas... Pauvert s'y intéressait. Et les quatre derniers numéros, c'est Pauvert qui les éditait, d'ailleurs.
Gifouif a eu 24 numéros.
Jean-Claude Romère.
Nous avions un autre générique, si on peut dire, Marcel Brion de l'Académie française, qui était red dingue de Félix Le Chat, par exemple. Il y avait Pierre Lazareff, pas un imbécile. Raymond Queneau, non plus. J'avais été le voir, il m'avait dit « Oh, bah, si on parle des pieds nickelés, moi je suis pour. » Federico Fellini, Jean-Christophe Averti, Delphine Seyrig, qui je crois était passionnée par Mandrake le magicien, Alain René, on n'a plus à faire sa publicité, on prenait tout nous. Donc vous voyez, tout ça était très mélangé, mais on avait besoin de se dédouaner avec des noms célèbres et reconnus, estampillés, intelligents. Alors là, les gens ne pouvaient plus rien dire. C'était notre parade. Et on n'avait pas beaucoup à se forcer, parce qu'eux-mêmes adoraient la bande dessinée, c'est vrai, ils l'avaient connue à telle ou telle époque dans leur jeunesse.
Il y avait sûrement l'idée de voir si ça permettrait aux gens...
Alain René.
De considérer... la bande dessinée comme quelque chose d'aussi important que Flaubert. Oui, oui, ça, c'était ça. Si on définit un art par le nombre de décisions que doit prendre l'auteur quand il écrit ou quand il dessine, ben il est certain que si on étudie ça de près, un bon livre ou une bonne bande dessinée demande une suite de choix extrêmement complexe. Bon. Enfin, moi, je ne vois aucune raison de penser que la bande dessinée serait quelque chose de mineur fait pour, là encore, les analphabètes, oui. Enfin, souvent, quand on me dit « Ah, vous aimez la bande dessinée ?» Je dis non. À ce moment-là, je peux dire « J'aime le cinéma », ça ne veut pas dire que j'aime les 100 000 films qui ont été produits depuis la création. Si je me sens en forme le soir, j'essaie de lire une bande dessinée, parce que j'ai l'impression que le travail actif du déchiffrage d'une bande dessinée par rapport à la complexité des messages qu'il faut enregistrer en même temps entre le dialogue, le commentaire, l'image, son graphisme et les positions visuelles qu'implique le dessin, eh ben, faut pas s'endormir.
Well, I must say you arranged that very nicely.
Just shut up.
Oh, Joey, your life is truly a cartoon. Draw me Popeye. No, Wimpy. I would gladly pay you Tuesday for a hamburger today. Huh? No, okay, Wimpy is too simple. I plead with you, Bugs Bunny.
Jusque dans les années 60, le dessinateur n'avait aucune relation avec son scénariste.
Claude Moliterni.
D'ailleurs, si on interrogeait... les dessinateurs de l'époque, ils vous répondraient qu'ils arrivaient dans les maisons d'édition, ils allaient voir l'éditeur, qui leur disait « Aujourd'hui, tu fais une histoire de pirate, 6 mois après, ils faisaient une histoire d'un western ou un policier. » C'était vraiment des... ils étaient à la tâche. Quoi. Le scénario, on leur donnait 15 feuilles et ils se débrouillaient.
Jean-Claude Romer, quelle était l'implication des dessinateurs de bande dessinée dans cette revue Gifou?
Total, parce que des gens comme Jean-Claude Forest, avec Barbarella, écrivaient, nous donnaient des dessins, et les auteurs américains, par exemple, nous avions Lee Falk, qui était l'auteur de Mandrake et du Fantôme du Bengale, qui est venu spécialement à Paris, qu'on rencontrait, on faisait des expositions. Ah non, il y avait beaucoup de choses qui se passaient.
Oh, my father?
Disgusting!
He's honored.
Cartoonist, yuck.
Si on prend Gottlieb, qui était fortement inspiré par Mad Magazine et d'autres dessinateurs américains de l'époque, tous avaient dans la tête cet esprit d'arrêter de faire des petits Mickey. Donc celui qui a...
Claude Moliterni.
Qui a mis le pied à l'étrier, c'est Forrest. Forrest est arrivé avec Barbarella, donc moi je m'occupais d'un journal qui s'appelait V Magazine, avec son rédacteur en chef, qui était Georges H. Gallet. Et Gallet, un jour, a dit « Bah écoutez, on va essayer de faire une bande dessinée un peu différente. » Et donc, Barbarella est parti. Donc, ça a été un petit raz-de-marée dans le landerneau de la BD. Ça a bien marché. Et Losfeld est arrivé, l'éditeur Losfeld. Et Losfeld a été le premier qui a eu l'idée de faire des albums de bande dessinée pour adultes. Donc, le premier a été Barbarella, qui a été interdit. Ensuite, il y a eu Scarlett qui a été interdit. nous avons été obligés de nous débrouiller pour assurer la diffusion de cet album. Et puis, par la suite, la loi a été un peu plus indulgente. On a pu remettre dans le circuit Barbarella, Scarlett, Pravda, etc. Voilà.
C'est une arme ?
Pour votre autodéfense. Nous l'avons empruntée au musée des perversions. Courage, Barbarella. Nous nous reverrons. Sûrement. Et cette fois, sans façon. Merci. Et... Love.
Love.
Jean-Claude Forest, 1974.
Barbara était assez mal vue en France, disons qu'elle était obligée de l'interdire. Bien. Et
Il y avait eu un film.
Enfin, la bande dessinée qui était à l'origine du film a été interdite à l'affichage, à la vente mineure, etc. Et à l'étranger, j'ai eu du mal, j'ai eu des problèmes parce que comme on était à ce moment-là en pleine période d'escalade de l'érotisme, on a trouvé que c'était assez sage, que finalement, Barbarella, c'était presque pour les enfants des écoles.
Oui, vous avez l'impression que c'est trop gentil alors maintenant ?
Non, ce qui s'est produit, c'est que le premier a été véritablement un jeu. Il se trouve que pour manifester ma liberté, j'en avais bien besoin à l'époque parce que je faisais des bandes dessinées absolument sur commande, qui était assez sinistre et contraignant. L'érotisme a pris une place importante, une des manifestations de la liberté dans le premier. Et pour manifester cette même liberté, dans le second, je n'ai fait intervenir l'érotisme quand j'en avais envie et non pas, disons, systématiquement. It's a wonder.
Premièrement, il faudrait que les dessinateurs français cessent de s'auto-censurer et d'avoir peur de la censure. Que deuxièmement, ils s'adressent à un public adulte. Le phénomène n'est pas du tout le même en France qu'aux États-Unis.
Francis Lacassin, 31 mars 1965.
En France, 95% de la production de bandes dessinées sont consacrées aux adultes. Aux États-Unis, pardon, et en France, c'est le contraire. En France, pratiquement toutes les bandes dessinées sont conçues à usage des enfants.
Est-ce que ça change en ce moment ?
Eh bien, en ce moment, oui.
Est-ce que le public adulte demande
Le public adulte demande de plus en plus de bandes dessinées. Il en a toujours demandé, en fait, mais il n'osait pas le dire. Maintenant, ce sont les gens qui ne lisent plus de bandes dessinées qui n'osent pas le dire. Par exemple, vous qui ne les aimez pas, vous êtes excusé.
Vous êtes excusé. Non, j'ai l'impression d'être malade depuis que nous avons commencé cette conversation. Jean Bouvier non plus ne les aime pas.
Oui, mais Jean-Claude Héberlé vient de faire un joli dessin. Oui. Il en dessine en ce moment, donc c'est un nouvel adepte.
Donc le public en demande de plus en plus. Ils se sont rendus compte des énormes possibilités qu'offrait le marché adulte.
Les nouvelles ambitions du CELEG l'amènent à participer chaque année au congrès des bandes dessinées de Luc en Italie, où les discours savants se succèdent sans relâche. La sociologue Evelyne Sulro participe au premier congrès en 1965. Elle y évoque les rapports entre culture et bandes dessinées.
Nous avons décidé d'avoir une rencontre avec le club italien des bandes dessinées. Et donc, nous nous sommes retrouvés à Bordighera, sur la Riviera italienne, pas très loin de Ventimiglia. Je dois dire que les femmes étaient rares. Hein. Là, j'étais vraiment entourée d'hommes de tous âges. Donc, quand c'est venu à mon tour de parler, je n'ai pas du tout raconté l'histoire donc, de la bande dessinée, à laquelle je connaissais à peu près rien, mais ce que j'avais remarqué et qui faisait de la bande dessinée une sorte de contraste parfait, de compensation, dirais-je, à la culture cultivée de ces débuts des années 60. Alors, la dite culture cultivée, je parle de la littérature, du cinéma, etc. Alors, ces années-là, on était en plein dans une sorte de climat, ou de, je ne veux pas parler théorie, de l'absurde. Hein. Il y avait de l'absurde au théâtre, il y avait de l'absurde tragique au cinéma avec Antonioni. Vous ne saviez pas ce qui se passait dans ses films, L'Aventura en un autre, etc. Il y a quelqu'un qui disparaît, mais vous ne connaissez pas du tout les personnages, ni ce qui se trame et tout. On est toujours dans une sorte de tragique, justement sans intrigue réellement, sans personnage, alors encore plus dans le roman. Donc on était dans ce climat de la culture cultivée, à la fois épurée, un peu pathétique et très très gris et noir, il n'y a pas de couleur là-dedans. Et donc moi je dis, écoutez, la bande dessinée vient là, enfin, pour compenser le besoin très fort qu'ont tous les gens, finalement, et qu'auront toujours, je crois, de romanesque, parce que on ne peut pas se passer dans une époque de toute cette population de héros et d'héroïnes, s'il n'y en a pas dans les livres, s'il y en a à peine ou seulement des masques comme ça dans les films, ben, ils seront dans les bandes dessinées.
Les sociologues genre Edgar Morin, qui ne sont pas sectaires et qui ne ressemblent pas à leurs collègues, nous disent que la bande dessinée, c'est l'antichambre de la culture.
Francis Lacassin, 1994.
Et donc, on prétendait que ça empêchait les enfants de lire, ça les détournait de leurs devoirs, ça les faisait rêver. Vous savez, le rêve, c'est incontrôlable, hein, que ce soit les régimes politiques, l'université, on n'aime pas les gens qui rêvent. Hein, ça échappe au contrôle, etc. Ça distrait les enfants, ça les éloigne de leur travail, ça leur donne l'impression qu'on peut tout faire, etc. Et donc elle était l'ennemie, et puis on l'a trouvée immorale. Alors là, vraiment, je ne vois pas en quoi les aventures de Tintin pouvaient être immorales, ou celles de Tarzan. Mais enfin, on trouvait que Tarzan, moi j'ai eu affaire à l'éducateur qui m'a dit « Non, ça c'est un personnage qui règle ses comptes à la mitraillette. » Je lui dis « Vous avez lu Tarzan ?» Parce que si vous le lisez, il n'emploie jamais une arme à feu et encore moins une mitraillette. C'est tout avec ses mains. Vraiment, il ne tue que lorsqu'il est obligé avec un couteau. Alors déjà, régler ses comptes à la mitraillette. Ah oui, mais il mène une vie asociale.
C'est un sauvage.
Il a une vie, c'est pas normal, un homme qui vit comme ça à demi nu dans la jungle, hors de la société, parce qu'il y a un modèle imposé. Ouais, il faut que nous admirions uniquement les gens qui vivent dans des HLM.
Attrapez, la tribu va nous tomber dessus. Jane! Jane, chérie, où es-tu?
Mais attendez! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Jane, il a enlevé Jane!
Mais de qui parlez-vous?
Jane!
Même dans la bande dessinée de Papa, la folie n'est pas absente. Jean-Claude Bourgeron établit son diagnostic concernant Superman.
Congrès de Luc, le 12 août 1968.
Je voudrais aujourd'hui vous faire part d'une coïncidence qui m'a frappé. En effet, tant en ce qui concerne le personnage lui-même que les thèmes de ses aventures, il existe une relation étroite avec la structure d'une maladie mentale appelée paraphrénie ou délire fantastique. En conclusion, je peux dire que même si cela était possible, il serait vraiment dommage pour des milliers de lecteurs de guérir M. Kent de son délire et de son dédoublement de la personnalité.
Planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle.
Francis Lacassin, Congrès de Luc, le 4 janvier 1967.
Les modifications qui échappent à la conscience de l'auteur participent bien sûr de son évolution personnelle, mais ne contiennent-elles pas l'écho des transformations qui affectent également l'inconscient collectif? Il semble que le public actuel, dans sa tendance à l'identification avec le héros, ne porte plus sa préférence à des personnages sublimés et triomphants, mais à des personnages inadaptés, dérisoires ou torturés, dans lesquels il se reconnaît mieux. Pour terminer, est-il besoin d'affirmer que toutes les considérations faites quant aux mutations qui altèrent ou transforment le héros ne procède d'aucune intention péjorative, mais du désir d'éclairer et comprendre l'activité créatrice. Affaibli ou triomphant, subissant comme nous le poids du temps et les vicissitudes de l'existence, proche de nous ou réfugié sur l'Olympe, le héros conserve tout son prestige, toute notre affection.
Claude Moliterni.
Je suis parti aux États-Unis en 1964 et le hasard m'a mis en contact avec un dessinateur américain qui s'appelait David Pascal. Et je lui ai fait part de l'intérêt qu'il y avait en France pour la bande dessinée, ce qui l'a fortement étonné. Et avec un ami qui s'appelait Claude Le Gallo, nous étions assez fans du Tarzan de Burt Nogars. Et on lui dit, cet homme a disparu, qu'est-il devenu ? Mais tu me dis, je le connais bien, c'est le directeur et le fondateur de l'école des arts visuels de New York, où j'enseigne d'ailleurs, et donc je l'ai rencontré. Et quand je suis rentré à Paris, à la réunion annuelle de ce club, j'ai fait part de l'intérêt d'avoir découvert le dessinateur qu'on pouvait l'étudier. Et là, j'ai vu que ça n'intéressait personne. En fait, j'ai découvert que tous ces gens-là, c'était des nostalgiques qui voulaient retrouver du vieux papier avec Mandrake, le fantôme du Bengale et compagnie. Bon, moi, je leur ai expliqué que je voulais faire une recherche un peu comme Panassier l'avait faite pour le jazz. Et j'ai claqué la porte.
Flash ! Restez là !
Ne vous battez pas, ils vous tueront !
Jean-Claude Romer, quels sont les points d'accrochage entre vous qui expliquent cette scission ?
La personne qui pourrait mieux vous en parler, c'est Francis Lacassin, parce que c'est surtout entre lui et Francis Lacassin qu'il y a eu un accrochage, mais moi je ne pourrais pas vous en dire plus.
C'était tout simplement un problème de pouvoir entre deux personnalités un peu
fortes.
Oui,
il y a toujours eu des antipathies, des empathies. Bon, moi c'est comme ça dans toute. Même chez les surréalistes, ils passaient leur temps à s'exclure, alors vous voyez.
Mais par exemple, Claude Moliterni crée un autre magazine consacré à la bande dessinée qui s'appelle Phoenix. Est-ce que c'était très différent du Gifouif ?
C'était pareil. C'était la même chose, mais bon, il le faisait de son côté.
Vous aviez la même approche de la bande dessinée.
La même approche, c'était faire connaître, reconnaître et apprécier la bande dessinée auprès d'un plus large public, qui n'était pas seulement les nostalgiques et les frustrés de la bande dessinée de leur jeunesse. And we are too.
Aidez-nous à comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous parlez de nostalgie concernant le club des bandes dessinées, puis ensuite qui va devenir le CELEG, mais il n'y avait pas que ça qui vous différenciait. Qu'est-ce qui était C'est-à-dire que vous pensez que le CELEG manquait d'esprit de prospective ?
Exactement, oui. Exactement, c'est-à-dire un manque total d'ouverture. Nous, on est parti du principe que la bande dessinée était un moyen de communication de masse. Ça, c'était important. Et justement, Le Gifouif, rédigé par les membres du CELEG, ne s'intéressait qu'à des personnages des années 30. À part le Forest de Barbarella ou le Lucky Luke, tout le reste, c'était des personnages nostalgiques.
De la bande dessinée américaine des
de
années 30.
De la bande dessinée américaine, ce qu'ils avaient lu quand ils étaient jeunes. Donc moi, je voulais aller plus loin en m'intéressant à la bande dessinée anglaise, à la bande dessinée mexicaine, etc. Voilà, on a voulu faire un discours, puis en même temps, on a fait un discours esthétique, sociologique, tout à fait différent. On a fait vraiment une recherche afin de prouver que la bande dessinée avait des bases solides. Voilà.
Et comment on peut expliquer cette scission entre l'école Lacassin en bande dessinée et l'école Moliterni ?
Ah ben ça, ils vous l'expliqueront peut-être eux-mêmes, parce que moi j'arrive à la génération suivante.
Michel Denis.
Je suis une des rares personnes à être ami avec les deux. Les rares personnes, parce que 40 ans après, ça continue. Il y a eu dernièrement un article vengeur de Lacassin dans une revue. Donc, moi je ne vais pas prendre parti là-dedans. Hein. Mm-hmm. Je ne l'ai pas vécu à l'époque. On ne s'est pas rendu compte, nous les lecteurs. Parce que moi j'étais un simple lecteur de Gifouy, bon, après j'ai lu Phoenix. On ne s'est pas rendu compte que ça avait pris une ampleur pareille. Bon, il semble que des haines, 40 ans après, ne sont toujours pas, pas disparues. Mais bon, il semblerait que c'est une sombre histoire de billets d'avion donnés à Alain Resnais pour aller représenter la France aux États-Unis. C'est quelque chose d'assez médiocre, si vraiment c'est ça. Il y a aussi des gens qui disent que bon, c'était mal géré. C'est vrai que Gifu était peut-être mal géré, je ne sais pas. Je ne parle non plus. Mais... Donc il y a une scission. Et donc une partie qui reste avec Lacassin. Lacassin continue donc chez Pauvert, quelques numéros. Et puis après, il arrête, parce que lui, comme ça s'intéresse à beaucoup de choses différentes, il a dit, puisqu'on m'emmerde, c'est fini la bande dessinée, enfin c'est fini pour un temps, et puis il a laissé le bébé à Moliterni, et son équipe, parce que Moliterni n'est pas tout seul quand même. Hein. Il y a avec lui le Coupri, des gens comme ça qui étaient à l'universitaire, il y a tout un groupe de gens.
Je me rends. Baissez vos armes, si vous me voulez vivant.
Mais en sortant, j'ai été rejoint par deux ou trois personnes qui m'ont fait part que mon discours les avait intéressés.
Qui étaient ces personnes ?
Alors, c'était Pierre Coupri, Édouard François, Proto De Stefanis. Voilà. Et nous avons donc décidé de faire une scission, entre guillemets, de faire un autre club. Mais on n'a pas fait un club, on a fait une société civile qu'on a appelée la Sacerlibre. Et à ce moment-là, on s'est dit, et alors ? Et alors ? Et le hasard est fait de plein de choses. Le hasard a fait que j'ai rencontré un jour un scénariste, un romancier qui s'appelait Georges Fonval, spécialiste du roman populaire, qui connaissait un imprimeur qui avait des velléités d'édition. Donc je l'ai rencontré Et cet homme s'est emballé pour le projet. Donc on a créé la revue Phoenix. Bien entendu, tout ce que nous avons produit et réalisé à ce moment-là a été fait bénévolement, hein, je précise.
Et qu'est-ce qui change entre Gifouif et la revue lancée par Molly Terny, ensuite Phoenix? Comment on peut les différencier?
C'est quand même beaucoup plus intellectuel, Gifouif. Et puis Phoenix, alors là, c'est né d'une scission.
Hein. Michel Denis.
Phoenix, Molly Terny rêve quand même à trouver des sponsors, des éditeurs, etc. La revue, je crois, est vendue en kiosque. Donc déjà, ça, c'est un pas en avant.
Et c'est après. C'était pas le cas de Gifouif?
Non, je pense pas, non. Non, non. Donc déjà, le tirage est sûrement supérieur. Mais il y a moins d'articles peut-être de fond. Il n'y a plus besoin non plus de réexpliquer ce que c'est que le 9e art, quoi, à ce moment-là. Et lui, il commence à faire découvrir aussi des gens du Dupuis Lombard, enfin, de la bande dessinée franco-belge, etc. C'est beaucoup plus universel, vous voyez. Ça touche beaucoup plus de monde, quoi.
Et vous êtes un artiste?
Non, je suis juste un cartooniste. Non,
un dessinateur? Je pourrais voir votre travail.
Yes, of course.
Et en 66, je me ferai toujours, il faisait un temps exécrable, j'étais rue de Rivoli.
Claude Molly Terny.
Et j'ai dit, tiens, je vais y aller, quoi. J'ai franchi la porte du 106 ou du 109 rue de Rivoli, c'est-à-dire le musée des Arts Déco, et j'ai demandé à parler au conservateur du musée. Donc, il m'a reçu, François Matet, je lui ai exposé mon idée, qu'il l'a emballé. Et là, c'est étonnant, hein, c'est vraiment étonnant. Mais il m'a fait part que pour faire passer le projet auprès de son conseil d'administration, il fallait quand même qu'il y ait un peu de peinture quelque part. Et encore le hasard, vous allez voir, c'est quand même une histoire de fou. Je travaillais à ce moment-là chez Hachette, et un des directeurs des Guides Bleus, Gérald Gassiot-Talabos, était à la tête d'un mouvement de plastique qui s'appelait la figuration narrative. Donc j'étais un peu à sa porte, je lui ai dit, écoute, on pourrait faire un truc ensemble. Alors bien entendu, il a bondi tout de suite en disant, ça m'intéresse. Avec Coupry, on a planché, et donc j'ai conçu l'exposition sur l'art narratif figuré, sur la technique narrative. Et ensuite, il y avait une partie sur les peintres inspirés ou utilisant les méthodes de la bande dessinée, avec une charnière qui était celle de Liechtenstein, quoi, en finissant sur Rancillac, Adami et compagnie. Voilà, ça a été l'expo de 67, qui a connu un énorme succès. Elle a fait plus de 550 000 entrées, juste derrière celle de Picasso qui s'est allée au Petit Palais ou au Grand, je ne sais plus, au Petit Palais, je crois. Et au lieu de durer 3 mois, elle a duré 4 mois. Voilà, ça a été un énorme succès. On a eu une presse fantastique internationale. Et voilà comment est parti le mouvement.
Who's kidding who? People are coming to see cartoons in an art gallery? They're foreigners.
Il faut être fou.
They can't understand.
Fou pour envoyer des gens voir des cartoons dans une galerie d'art. Et des Français, c'est...
Gags on my
c'est vrai, ils ne comprennent rien.
I'm not going to make a fool out of myself. Hey, let me wash that. You shouldn't eat foreign fruits unwashed.
Thank you, merci.
André Parineau présente Art d'aujourd'hui, magazine des arts réalisé avec la collaboration d'Hélène Delabrusse et de Raymond Charmet.
6 avril 1967.
Les premiers invités de notre magazine de l'actualité artistique cette semaine sont Gérard Gassiot-Talabot et Pierre Coupry. Ils sont venus nous parler d'une exposition qui se tient actuellement au Musée des Arts Décoratifs et qui a pour thème les bandes dessinées. C'est assez paradoxal, Gassiot-Talabot, qu'une exposition de peinture ait pris comme élément de base la bande dessinée. Quelle a été, j'allais dire, le développement, disons, l'origine de cette tentative?
Il est bien certain qu'un grand nombre de peintres ont été influencés par la bande dessinée au cours de ces dernières années, de la même façon que la bande dessinée avait été elle-même influencée par la peinture. Ces peintres ont soit emprunté certains cadrages à bande dessinée, soit même, dans certains cas, certains personnages, et il y a eu une sorte de contamination qui est un des éléments assez remarquables de ce que l'on a appelé la figuration narrative. Nous avons voulu, en prenant ces peintres, insister sur un aspect de l'exposition qui était, pour moi, la structure de l'image.
Et il y a des peintres, là, Ayo, Arroyo, Recalcati.
Bernard Rancillac.
Qui avait fait la mort de Marcel Duchamp. Il s'en prenait à Marcel Duchamp. Donc, je sais plus, c'est 8 ou 9 tableaux. Ils arrivent chez Duchamp, ils l'attaquent, ils le jettent dans l'escalier. Après, à la fin, il y a son enterrement. Enfin, donc voilà, ça, c'est de la figuration narrative. La bande dessinée, c'est un récit aussi, mais pour les gens qui n'ont pas envie de lire ou qui savent pas, qui n'ont pas envie de se taper justement à la recherche du temps perdu, voilà, c'est assez simple et on regarde d'une image à l'autre, on comprend ce qui arrive. Voilà.
Il ne s'agit pas d'une rétrospective historique. Nous avons voulu démonter le langage de la bande dessinée.
Pierre Coupry.
C'est une exposition technique, pour ne pas dire didactique, c'est une exposition technique. Nous partons des éléments de base du langage de la bande dessinée, c'est-à-dire les plus simples, on fait ses conventions, le ballon, le cadre de l'image, qui est très variable par son format, son épaisseur, enfin, c'est lui qui soutient l'image et qui introduit le temps dans le récit en le coupant. Et nous continuons par le contenu narratif de l'image et nous terminons par l'étude, en quelque sorte, de ce qu'on pourrait appeler le montage dans la bande dessinée, quoique nous n'aimions pas beaucoup emprunter le vocabulaire du cinéma.
Je vous remercie, messieurs, et je rappelle qu'au Musée des Arts Décoratifs, il y a là le rendez-vous des gens curieux et des gens qui veulent être de leur temps.
À l'époque, pour exposer dans un musée, il fallait carrément être mort. On a été les premiers à rentrer dans les musées.
Bernard Rancillac.
Et donc, ce qu'on voulait, c'était casser la baraque et s'opposer à ce qu'on a appelé l'école de Paris, la peinture abstraite. On arrivait après 15 ans de peinture abstraite, il y en avait partout, il n'y avait plus que ça. Et on a dit, merde, ça suffit comme ça, il y en a marre. Et donc la BD, c'était une façon de dire, aussi, enfin, on est des vilains garnements, on veut tout casser. Et c'était un modèle populaire, hein, pop. Il y a le pop art en même temps qui commençait ou qui avait commencé en Angleterre quelques années avant et aux États-Unis au même moment un peu, hein. Et donc, pop art, populaire, donc BD, voilà, c'était un langage populaire, et disons aussi, à l'époque, infantile.
Si ça continue comme ça, nous ne serons jamais prêts. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une galerie de peinture, nous devenons un album géant. Un album géant à l'intérieur d'une gigantesque bande dessinée. Il faut qu'on étouffe.
Maybe you should tell her who you are.
Il faut que l'œil demande grâce, qu'il hurle.
I'm not good at this.
Alors, quel était le dispositif de cette exposition? Comment on représentait la bande dessinée? Vous parliez de photographie. Est-ce qu'on pouvait voir également des planches originales, des strips originaux?
Non, il n'y avait absolument pas d'originaux. Pourquoi? Parce qu'on n'en avait pas. Hein, tout simplement, à cette époque, on connaissait peu de dessinateurs américains. Et pour avoir du matériel, c'était extrêmement difficile. Mais par contre, j'ai joué toujours sur le blow-up, sur l'agrandissement.
Claude Moliterne.
Il y avait des planches qui faisaient 4 mètres de haut sur 3 mètres de large.
D'accord, des agrandissements photographiques.
Photographiques, oui. Et il y avait aussi une salle, une grande boîte noire avec des photographies en couleur pour montrer justement l'utilisation de la couleur dans la bande dessinée, de la couleur expressionniste, etc. Montrer comment les dessinateurs américains, parce que je précise, il y avait peu de dessinateurs français, franco-belges, quoi, quelques-uns, mais utilisaient la couleur.
You detest crowds. I detest this.
Well, I have no confidence in your contempt, Lionel. This week it's cartoons, and next week you may love cartoons for their depth. You're always praising painters for their depth, aren't you?
C'est étonnant qu'on n'ait pas exposé des planches. Ça signifie bien une chose, c'est que on considérait pas ces gens-là comme des gens suffisamment sérieux pour qu'on expose leurs planches, leur vrai boulot, le truc qu'ils avaient fait à la main, avec, je sais pas moi, des erreurs, des coups de gomme, des trucs comme ça, comme des vrais artistes. On voulait agrandir pour que ça ait l'air d'être presque des tableaux.
J'avoue que les hommes célèbres me fascinent. Il y a quelque chose sur votre veste. Mais je n'ai pas le moindre repère avec vous. Vous êtes vraiment très connu? Êtes-vous réellement une célébrité ou on vous fait simplement le grand jeu?
Est-ce que vous vous souvenez de votre visite à l'exposition, la première grande exposition de bande dessinée en France, au Musée des Arts Déco à Paris en 1967, Michel Denis?
Oui, très bien, je me rappelle très bien. Oui. C'était quand même stupéfiant parce qu'à l'époque, la bande dessinée était tellement méprisée dans le grand public, dans le public adulte, disons, qu'on était quand même étonné que quelqu'un ait osé faire une exposition pareille, quoi. Ce qui était stupéfiant, c'est de voir toutes les bandes américaines jusqu'ici rejetée par tout le grand public et la foule qu'il y avait, et ça intéressait vraiment beaucoup les gens.
Ça a vraiment eu un grand succès.
Un énorme succès, oui, un énorme succès. Et ça n'a pas arrêté depuis d'ailleurs.
À l'époque, on faisait des coups, il fallait faire des coups, il fallait exister, il fallait remuer ce potage épais là, et abstrait. Je pense, moi, que c'est les Moliterni et la bande de la bande dessinée, si on peut dire, ou de la BD, oui, qui a trouvé une bonne occasion de s'officialiser et d'être dans un musée. Moliterni a dû penser que c'était un bon coup pour lui d'officialiser la chose, enfin de lui donner une officialité,
une dignité peut-être.
Une dignité culturelle dont elle manquait furieusement, je pense, et qui leur faisait de la peine sans doute.
Bon, alors de vous à moi, y a-t-il vraiment un intérêt culturel dans la bande dessinée ?
Enfin, moi j'étais comme vous, je n'aimais pas la bande dessinée.
Jacques Sternberg, le 12 septembre 1967.
J'ai entrepris ce bouquin dans l'enthousiasme parce que j'étais content de faire un livre où le sujet m'était totalement étranger et inconnu, et je me suis aperçu qu'on découvre des merveilles, des choses extraordinaires.
Et quel avenir voyez-vous pour cette bande dessinée ?
Ben, ce serait facile de vous répondre que je vois l'avenir de n'importe quel snobisme, c'est-à-dire une chose qui va passer, mais je crois que ça ira quand même plus loin. Je crois que elle va devenir de plus en plus littéraire, de plus en plus sophistiquée, et je lui vois quand même un certain avenir, oui.
Vraiment ?
Oui, en France.
Avec des auteurs qui vont revenir renouveler, enrichir le patrimoine.
Oui, il faut bien se rendre compte que le raz-de-marée de la bande dessinée qui a déferlé sur les États-Unis n'a jamais atteint cette puissance en France. Et je crois que nous assistons à la venue de ce raz-de-marée.
Merci à Claude Moliterni, Michel Denis, Evelyne Sulreau, Bernard Rancillac, Jean-Claude Romer et Tante Flébite. Les extraits de films sont tirés de Flash Gordon de Mike Hodges, I Want to Go Home d'Alain Resnais, Barbarella de Roger Vadim et de Prince Vaillant d'Henri Attaway. Archivina Olivier Tosserie, mixage Julien Douminc, réalisation Marie-Christine Closet et Charlotte Roux, un documentaire d'Anaïs Quien.
Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres de France Culture, mais aussi de la Fabrique de l'Histoire, sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.